Seigneur, je veux juste te rendre grâce pour l'occasion de parler de toi ce matin, de communier avec les frères et sœurs. Merci pour ta parole. Par elle, tu nous visites, tu nous éclaires. Par elle, tu ajoutes à nos vies, tu nous apprends ta pensée et à marcher avec toi en toute simplicité. Oh, viens et continue ton œuvre ce matin. Merci pour cette belle église de Genève. Merci pour la vision. Merci pour ce qui se fait, ce qui se vit. Vraiment, visite-les, fais-leur du bien, Jésus. Merci. Amen. Alors, Genèse chapitre 15, le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Oui, 15. À Genèse 15, verset 1. Bon. Ou Genève 15. Non. Genèse. Chapitre 15, le verset 1er. Là, il est écrit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. 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 Wow. Et cette pensée, c'est pour introduire mon thème hein, que nous aurons le temps de décortiquer. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Ce n'est pas je te donnerai un bouclier, mais je suis moi-même ton bouclier. Et parce que c'est moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et j'aime bien les textes bibliques et chaque mot parle beaucoup, chaque expression. Et ici, la première expression que nous voyons dans ce verset, c'est « après ces événements ». Après ces événements. Et une expression similaire, c'est « après ces choses ». Nous trouvons ces expressions dans la parole de Dieu. « Après ces événements, après ces choses ». Et c'est merveilleux de voir que, alors que l'homme a ses projets, l'homme a sa manière de voir les choses, les hommes que nous ne sommes pas sans vision quand même. On n'est pas, ouais, on a notre idée des choses, on réfléchit, on pose des actes, mais c'est beau de voir que parfois le Seigneur nous laisse faire, il nous laisse aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Presque je dirais, il nous fait de la place. Et pour qu'on puisse arriver à la fin de nous-mêmes, et c'est là qu'on réalise que non. Ce qu'on a prévu faire ou ce qu'on a pensé faire, ce n'était pas du tout le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que la chose était une bonne pensée que ça veut dire forcément que c'était la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on était sincère dans ce qu'on faisait que ça veut dire que c'était le plan de Dieu. Parce que la sincérité ne fait pas la vérité. On peut se tromper sincèrement. On peut se tromper sincèrement. Et donc, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour nous, le plan de Dieu. Mais j'aime bien ce Dieu qui nous laisse aussi parfois de l'espace pour qu'on puisse se tromper aussi et pour qu'on puisse se forger des convictions, pour qu'on puisse dire avec certitude que non, voilà ce que Dieu attend de moi. Et c'est dans ce sens aussi que nous voyons ce verset qui est écrit. Il est dit « après ces événements ». Si nous lisons, nous nous positionnons un peu dans le contexte, de quel événement s'agit-il? Quels sont ces événements? Et pour ne citer que les plus récents, dans ce contexte avec Abraham, on n'est pas dans la configuration de Abraham, mais on est là d'abord avec Abraham, et Dieu va lui changer son nom plus tard en ajoutant le H de l'esprit, le H du nom de Dieu, du caractère de Dieu. Mais là, nous sommes juste avec Abraham, l'homme Abraham. Et quels sont ces événements? Nous voyons que Abraham va livrer une bataille contre cette coalition des rois. Il va vaincre ces rois. Abraham va avoir une victoire extraordinaire. Et quels sont ces événements? Autre chose que nous voyons, c'est que Abraham, après la victoire avec de ces rois, il va faire une rencontre extraordinaire. Il va rencontrer un personnage qui s'appelle Melchisédek. Et c'est un sacrificateur particulier. C'est une image de Jésus-Christ. On ne sait pas d'où il vient. On ne connaît pas sa fin. Et beaucoup, en tout cas, les érudits de la parole de Dieu, voient en ce dernier une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham va reconnaître en ce Melchisédek, le sacrificateur du Très-Haut, comme le dit la parole de Dieu, et il va lui donner sa dîme. Encore une fois, nous voyons par là que la dîme n'est pas juste une recommandation de la loi, parce que avant la loi, on voit Abraham qui donne la dîme. Mais à Melchisédek, la dîme n'est pas le produit de la loi. C'est le cœur éternel de Dieu que nous puissions manifester notre reconnaissance en mettant les 10% de côté. Ce n'est pas une loi, on peut donner même plus que 10%. Vous voyez? Et Abraham va faire cette rencontre avec Melchisédek et il va démontrer sa foi par la dîme qu'il va accorder à Melchisédek. Et ce n'est pas tout. Abraham va recevoir des promesses de Dieu, des promesses que Dieu va le bénir. Mais aussi, pensant, parlant de après ces événements, l'un de ces événements, c'est que Dieu va amener Abraham à se séparer de Lot. Alors que Abraham n'avait pas d'enfant, même si son nom veut dire père élevé, ou plutôt père d'une multitude, Abraham n'a pas de multitude, il n'a pas d'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ton nom veut dire père d'une multitude alors que tu n'as même pas un? Qu'est-ce que ça fait lorsque tu es un prédicateur et tu n'as même pas de... Tu prêches, mais tu n'es même pas entendu. On dirait que tu prêches dans un désert. Qu'est-ce que ça fait lorsque tu es censé, tu es investi dans des vies, mais du coup, tu réalises que tu as des membres, mais tu n'as pas de disciples. Vous imaginez la douleur que ça fait pour Abraham de porter son nom, père d'une multitude, mais il n'a même pas un seul. Vous imaginez peut-être la moquerie autour. Et Abraham va trouver refuge en son neveu Lot. Et il va prendre Lot avec lui. Dieu va l'appeler dans Genèse chapitre 12. Et Abraham tellement désécurisé qu'il va prendre Lot avec lui. Et tout ce que Lot saura faire, c'est de créer des problèmes entre Abraham et lui. Créer des problèmes entre ses bergers et les bergers d'Abraham. Et les choses ne vont pas bien aller. Les choses ne vont pas bien aller. Et à un moment donné, Abraham comprend qu'il faut se séparer de Lot. Mais pour Abraham, il voyait Lot comme son héritier. Il voyait Lot comme son avenir. Il voyait Lot comme le disciple qui va prendre le relève. Il voit Lot comme la future relève, quoi. Et il misait vraiment sur Lot. Et Dieu lui dira, non, Abraham, tu vas devoir te séparer de Lot. Et là, on voit que Abraham, finalement, va se séparer de Lot. Donc, quelque part, c'est une perte pour Abraham. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera mon héritier? Et là, il va se plier maintenant sur un autre serviteur. Il va dire, mais c'est pourquoi il va dire plus tard à Dieu, « Ouais, mais Dieu, tu ne m'as pas donné d'enfant. Voilà, c'est ce serviteur. J'ai oublié un peu son nom. Et Élimélec, qui sera mon héritier. » Et Dieu va dire, « Non, ce n'est pas lui. » Donc, nous voyons combien Abraham est troublé quelque part. Oui, il y a des choses positives dans sa vie, mais il y a aussi des défis dans sa vie. Éliezer, voilà. C'est son serviteur Éliezer de Abraham, le serviteur. C'est lui qu'il va envoyer plus tard chercher une femme à Isaac. Et il va, bon, bref. Donc, il y a ce défi. Et donc, c'est parfois un peu ça la vie chrétienne, au fait. Nous avons des hauts, mais nous avons aussi des bas. La vie chrétienne, ce n'est pas que, ouais, tout va bien, comme sur des roulettes. Et comme je le disais à Montpellier tout récemment, le 23 mars passé, nous, dans notre couple, nous avions célébré. On n'a rien célébré, mais c'était notre 20e anniversaire de mariage. Et quelqu'un nous disait, ah ben 20 ans de lune de miel. Et je dis, ouais, j'aimerais vous dire 20 ans de lune de miel, mais si je le disais, je serais un menteur. Ce n'est pas que de lune de miel. C'est aussi du miel, c'est vrai, mais si parfois c'est salé aussi. Hein? Oui, on a eu des hauts, oui, mais c'est aussi des bas. Tu vois, c'est ça la vie chrétienne. Mais combien parfois on peut dire aux gens, oh, mais 20 ans que vous vous aimiez, 20, ah, mais 20 ans qu'on se déteste aussi parfois. Ouais, 20 ans où parfois j'ai pas envie de regarder ses yeux parce que, voilà, 20 ans où, oui, de lutte aussi, mais 20 ans de marche ensemble également, c'est ça. Mais parfois nous parlons que d'une partie de notre histoire. Nous parlons que d'un aspect de notre histoire. Parce qu'on pense que l'autre aspect n'est pas propre à consommer. L'autre aspect, c'est pas consommable. Mais c'est aussi notre histoire. C'est aussi notre histoire. 20 ans de caprice aussi. 20 ans où on se fait la tête aussi. Oh, je mange pas. Ah, puis l'autre prépare et tu sais qu'elle aime bien faire la cuisine et pour la punir, non, je mange pas. Et puis, tu vas te coucher la nuit pendant que tout le monde dort. Tu vas tranquillement à la cuisine, hein, puis tu ouvres les trucs, tu prends un truc, tu avales et puis... et puis non, je ne mange pas. Voilà. Eh oui. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a des choses, s'il faut le refaire, on le ferait exactement de la même manière. Mais il y a des choses qu'on ne fera plus du tout de la même manière. Donc, ça fait 20 ans d'apprentissage. Des hauts, des bas. Des sucrés, mais salés aussi. 20 ans, on a connu tous les goûts possibles. Et c'est aussi ça la vie chrétienne. C'est aussi ça. Abraham a reçu des promesses, mais Abraham est le père de la foi. Mais Abraham a connu des moments d'inquiétude également. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette expression, il est dit « après ces événements ». Après ces événements. Après toutes ces choses, l'Éternel va intervenir. L'Éternel va intervenir. Vous voyez? Donc sa vie sera faite de gains, mais aussi de pertes, de joie, mais aussi de pleurs, de courage, mais aussi de découragement, de marche par la foi, mais aussi parfois de marche par la vue, d'assurance, mais sa vie sera aussi faite de moments de doute et de peur. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est aussi ça notre vie. Et il est dit, mais après ces choses, on ne s'arrête pas juste à nos expériences. Il y a plus que notre expérience. Il y a plus que nos quotidiens. Il y a plus que notre culture. Il y a plus que notre réalité. Il y a un divin dans toutes choses. Et il est dit, après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Après ces choses. Est-ce que après ce que tu as vécu, est-ce que tu peux juste permettre quand même à Dieu de te parler? Ou bien ton expérience devient une fin en soi? Il y a des gens, parce qu'ils ont connu un père difficile, il est très difficile, compliqué pour eux de voir en Dieu un père qui les aime. Ils projettent l'image du père terrestre sur le père céleste. Et ils détestent Dieu aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais aimé leur père. Ils ne peuvent pas avoir une bonne relation avec Dieu aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas connu une bonne relation avec leur père. Et du coup, lorsqu'on parle de Dieu comme étant un père, ils sont allergiques à ça. Ils disent non, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Est-ce que mon expérience m'empêche d'entendre Dieu me parler aujourd'hui? Oh, quel privilège, je crois, ce livret de Pasteur Stevens, le privilège d'entendre Dieu nous parler. C'est un privilège. Mais combien nous pouvons passer à côté de ce privilège parce qu'on a eu une mauvaise expérience? Il y a des gens, moi, longtemps, j'ai dit non, moi, je ne vais jamais me marier. Parce que j'ai vu la vie des couples autour de moi, j'ai dit non, ça ne vaut pas la peine. Et je me suis converti, je me suis placé sous l'autorité de l'enseignement de la parole de Dieu. J'ai vu les missionnaires vivre leur vie de couple. Et du coup, mon cas de référence ne commence pas à être modifié. La parole de Dieu ne commence pas à changer les choses. Pour moi, le mariage, je dis, mais c'est une autre forme de prison. Pour moi, le mariage, c'est le seul combat ou la seule guerre où tu dors avec ton ennemi. tu vois, mais jusqu'à ce que la parole de Dieu commence pas à effacer cette image, la parole de Dieu commence pas à donner un autre cas de référence. Et du coup, dans mon cœur, dans mon cœur, je commence pas à aspirer au mariage. Je dis, mais waouh, donc c'est beau le mariage. La parole de Dieu a changé complètement ma vision des choses. Et aujourd'hui, en termes de mariage, je peux parler, je peux dire des choses. Et puis parce que, non seulement parce que la parole de Dieu en dit, mais parce que c'est devenu aussi ma réalité. Vous voyez, après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. C'est beau, n'est-ce pas? De voir que ce que nous vivons n'est pas une fin en soi. Ce que peut-être tu as raté hier, c'est ton expérience, c'est vrai, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce que tu as gagné comme victoire même hier ou aujourd'hui, c'est très bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Dieu désire te parler encore. Dieu désire faire une rencontre avec nous. L'échec peut nous empêcher d'entendre Dieu, mais notre victoire aussi peut nous empêcher d'entendre Dieu nous parler. Oh non, je maîtrise. Seigneur, fais-moi confiance. Ah ben, ce n'est plus moi qui fais confiance à Dieu. Non, Jésus, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Je vais réussir ce projet, tu vas voir. Oh Jésus, tu me connais, non? Laisse-moi, fais-moi confiance. Et Jésus dit, ah bon? Ok, vas-y. Je te fais confiance. Vas-y. Mais après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Ce que je vis aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Dieu désire nous parler encore. Et sa parole est encore d'actualité. Hébreux chapitre 4, le verset 12 et le verset 13. Hébreux 4, le verset 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et c'est un beau verset qui nous montre l'efficacité de la parole de Dieu. Mais bien que la Bible nous dit ici que la parole de Dieu est vivante et efficace, cette même parole qui est efficace sera annoncée aux Juifs dans le désert, mais l'auteur va nous dire cette parole ne leur a servi à rien. Pourquoi? Parce que leur expérience passée est devenue une fin en soi. Et parfois aussi, nous pouvons être dans la même condition. Nous écoutons une parole de foi, nous écoutons une parole vivante, nous écoutons la vision de Dieu pour notre vie. Elle est précise, elle est efficace, elle révèle le cœur de Dieu. Mais parfois, la prédication ne nous sert pas à grand-chose. C'est juste comme, pour utiliser une image, c'est juste comme de l'eau versée sur le dos du canard. Ça passe, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'effet, ça ne produit pas de changement. Et juste ça glisse et puis ça passe. Et pourtant, la parole de Dieu est vivante. Mais pourquoi ça ne m'amène pas à une nouvelle vie? Pourtant, la parole de Dieu est efficace. Pourquoi elle ne m'amène pas à triompher des forteresses dans ma vie? Pourtant, elle est efficace. Mais on dirait que c'est désactivé dans nos vies. Mais c'est juste parce que nos expériences empêche, c'est-à-dire, ça devient une fin en soi. Ça devient une fin en soi. Non, je sais comment ça marche. Vous connaissez cette expression française, le doigt dans le nez. Oh, ça, on le fait, le doigt dans le nez. Ça, c'est très facile, quoi. J'ai même pas besoin de. Je connais la route, je sais comment ça marche. Bah, ok. Et là, ce n'est plus le doigt dans le nez, mais c'est le doigt dans les yeux. On se plante. On se plante. La parole, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Et Dieu désire nous parler encore. Il est intéressé de voir qu'après tout, que malgré tout, Dieu ne garde pas le silence. Vous savez, Dieu ne garde pas le silence. Il parle. Il a parlé par le passé. Il parle encore. Et il parlera toujours. Amen. Il parlera toujours. Et par amour pour ses enfants, Dieu ne se tait pas. Dieu, il est créatif. Hier, on en parlait un peu au temps de rap, après l'évangélisation. Dieu est créatif. Dieu n'est pas déçu, il ne vient pas, ce n'est pas parce qu'il vient, il nous a parlé aujourd'hui, on n'a pas écouté, et il va dire non, débrouillez-vous. Non, 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 il trouve d'autres manières de nous parler. Il vient de telle manière, on résiste, il trouve d'autres manières de nous parler, il vient autrement. Parfois, nous prêchons sur les 10 plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte, mais en réalité, c'est, oui, chaque plaie est un défi lancé à un Dieu égyptien, mais ça révèle aussi 10 manières variées par lequel Dieu veut parler aux Égyptiens. Dieu n'est pas obligé, il n'est pas obligé d'envoyer les 10 plaies. Si après la première manière, le peuple a compris, Pharaon a compris la voix de Dieu, il laisse aller le peuple de Dieu, ben il va épargner l'Égypte. Et parce qu'il résiste, et Dieu dans son amour va devoir trouver une autre manière de parler. Le deuxième plaie, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et le cœur de Pharaon tout est toujours endurci. Et Dieu ira jusqu'au dixième. Mais on se dit, mais et si même après la dixième, il résiste? Peut-être que Dieu va devoir trouver la onzième. C'est notre réponse à la parole de Dieu. Ou plutôt, je dis, par notre réponse à la parole de Dieu, nous pouvons aussi racheter le temps. Lisons, quand on lit un peu le livre des juges, chaque fois que le peuple s'éloigne de Dieu et Dieu intervient, plutôt l'ennemi vient, on voit que parfois ça dure 7 ans, parfois c'est 20 ans, parfois c'est 17 ans, mais il y a eu des moments où c'est allé jusqu'à 40 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que le peuple crie, Dieu intervient, il envoie un juge qui délivre. Donc, comme quoi, le temps, ça dépend parfois de nous. Juste par la repentance, nous pouvons raccourcir les choses. C'est pourquoi Paul dit que nous pouvons hâter le retour de Jésus-Christ. Tout comme nous pouvons aussi retarder son retour. Si l'homme coopère avec Dieu, je ne dis pas si l'homme aide Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. D'accord? Mais si l'homme accepte de coopérer avec Dieu, en faisant plier sa volonté sous celle de Dieu, comme Job l'a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, c'est coopérer avec Dieu. Si l'homme accepte de coopérer avec Dieu, on peut vraiment racheter le temps. On peut racheter. On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux 10 plaies. Mais si nous coopérons, on peut juste s'arrêter peut-être au deuxième ou au troisième. Et nous pouvons vivre la délivrance. On peut vivre la délivrance. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 40 ans. Mais non, peut-être que la deuxième année, on peut crier à Dieu, Dieu enverra le Sauveur. On peut raccourcir les choses. Vous voyez? Et c'est beau de voir tout ça. Mais Dieu, dans son amour, il crée des occasions. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il continue toujours quand même de parler. Jusqu'à ce que, ben voilà, nous mourrons un jour. Et la Bible dit quoi? Après quoi? Ben vient le jugement. Mais sinon, tant que nous vivons, l'amour de Dieu est toujours disponible. On peut aller jusqu'au bout. Mais une fois qu'on est mort, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et là, nous rentrons dans une autre chose. Je dirais dans une autre dispensation, mais voilà. Et là, on va devoir faire face à d'autres réalités encore. Mais aujourd'hui encore, Dieu parle. Dieu parle. Dans telle situation, Dieu parle. Dans telle situation, il intervient, nous fait un clin d'œil. Pourquoi? Il veut nous attirer à lui. Donc, après ces choses, je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas ce que vous avez connu comme expérience, mais laissez-moi juste vous dire que ce n'est pas une fin en soi. Même si c'est une belle expérience, même si c'était une réussite hier, non, ce n'est pas une fin en soi. Même si c'était un échec, ce n'est pas une fin en soi. Dieu désire parler encore aujourd'hui. Et après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. La parole de Dieu fut adressée à Abraham. La troisième partie je reprends encore, oui, et là, il est dit, voilà, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Je peux aussi m'attarder sur le moyen par lequel Dieu nous parle dans ce verset. Ici, pour Abraham, c'est une vision. Mais dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 et 2, l'auteur nous dit, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes, dans les songes et par des visions, Dieu nous parle dans ces temps qui sont les derniers au travers le Fils, celui qu'il a établi héritier de toutes choses. On peut aussi voir le moyen par lequel Dieu nous parle. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut plus nous parler au travers d'un rêve? Oui, je peux rêver et ça peut être de Dieu. Mais sauf que le rêve aujourd'hui n'est plus l'autorité finale de la révélation de Dieu. L'autorité finale de la révélation de Dieu, c'est sa parole. Sinon, Dieu peut donner encore des visions. Dieu peut donner encore des rêves. Dieu peut parler encore au travers des songes. Mais sauf que ce n'est pas l'autorité finale. D'accord? Ce n'est pas l'autorité finale. C'est pourquoi lorsque quelqu'un se lève dans l'assemblée pour donner une prophétie, on doit examiner toute prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est l'autorité finale de la révélation de Dieu. Si une prophétie vient aujourd'hui, contredit la parole de Dieu, je dis non, cette prophétie n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut donner encore des prophéties? Oui, il peut le faire. Si quelqu'un se lève et me dit, ainsi parle le Seigneur, je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté. Je dirai amen à cette prophétie parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Si quelqu'un se lève dans l'assemblée et dit, ainsi parle l'Éternel, je suis fâché contre l'Église. Non, Dieu me dit dans sa parole, en moi il n'y a plus de colère. Mais si je trouve des épines, des ronces à combattre, je vais les combattre. Mais là nous rentrons maintenant dans le châtiment de Dieu. C'est conforme à la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as fait telle et telle chose, tu n'es plus mon enfant. Ah non, ce n'est pas conforme à l'autorité finale de la révélation de Dieu, qui est la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu pour toujours. Dieu m'aime, peu importe, même si ce que je fais importe pour Dieu. Vous voyez la différence? Donc, Dieu a parlé plusieurs fois et à plusieurs reprises, au travers des songes, au travers des prophètes, au travers de tellement de manières que Dieu peut encore utiliser aujourd'hui, mais sauf que le moyen par lequel il nous parle aujourd'hui, l'autorité finale de sa révélation, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans nos églises, nous faisons la promotion de l'Institut biblique. L'Institut biblique qui nous amène sur la voie de Dieu pour discerner qui est Dieu, pour discerner ce que Dieu fait, pour nous amener à être connectés à la vision de Dieu pour notre vie, pour entendre Dieu nous parler. L'Institut qui élève la parole de Dieu, qui forme les hommes et les femmes de Dieu dans la parole de Dieu. L'Institut qui nous équipe avec la parole de Dieu. Je lis un verset, je sais comment l'interpréter. Je ne sors pas du contexte. Comment je peux être fidèle à la pensée de Dieu pour ne pas la tourner à mon avantage? Comment je peux servir la parole de Dieu et non se servir de la parole de Dieu? Vous voyez? Et l'Institut est là pour ça. L'Institut, Pasteur Tony me parlait des cours, comment il fait ici. J'ai dit, mais waouh, c'est beau ça. C'est beau. Et c'est vraiment un outil précieux. D'accord? Donc, on peut s'étendre encore sur le moyen, mais je ne veux pas trop aller dans ce sens. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et quel est le contenu de la parole? Sois sans crainte. Sois sans crainte. La parole de Dieu ne nous condamne jamais. La parole de Dieu nous rassure. Et Dieu, même s'il doit nous châtier, par son châtiment, nous avons la paix. Par son châtiment, nous recevons la paix. Et il nous châtie comme un père. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dira que s'il ne le fait pas, nous serons considérés comme des enfants bâtards. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce privilège d'être châtiés par Dieu. Et c'est un privilège d'enfant de Dieu. Alors que si nous ne sommes pas enfants de Dieu, c'est la colère de Dieu qui est encore sur les gens de ce monde. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons le privilège d'être châtiés par Dieu. C'est un privilège, n'est-ce pas? De voir Dieu parfois fermer les portes dans nos vies. C'est aussi un privilège de voir Dieu ouvrir des portes. Il ferme parfois des portes pour nous protéger, mais il ouvre aussi des portes pour nous bénir. Mais nous, on préfère que des portes ouvertes. Les portes ouvertes. Wow, la porte est ouverte. Ok, mais parfois il faut aussi apprendre à fermer certaines portes pour se protéger. Je suis sûr que les portes sont ouvertes là parce qu'on se dit, oui, il fait beau, le vent. Mais en hiver, personne n'osera ouvrir ces portes. On va les fermer. Toujours ouvertes pour vous. Toujours ouvertes. Et là, quand on va commencer par grelotter là, non, là, on va trouver des moyens de nous protéger. Et Dieu parfois ferme des portes dans nos vies pour nous protéger. Et parfois, il ouvre aussi des portes pour nous bénir. Nous devons aussi apprendre à discerner ce que Dieu fait. Discerner le temps de Dieu dans nos vies, discerner l'œuvre de Dieu dans nos vies pour ne pas être figé. Parce que parfois, nous sommes figés, nous voulons figer les événements. C'est comme ça, c'est bien carré et on met tout le monde dedans. Et c'est comme ça. Mais parfois, Dieu veut changer les formes. Même si j'aime la forme carrée, si Dieu veut que ça soit une forme rectangulaire, ben, il donnera la forme qu'il faut. S'il veut qu'il soit une forme triangulaire, c'est lui qui donne la forme. Mais Dieu a agi dans le passé, dans une forme donnée. Et à un moment donné, vous savez ce que la religion fait? La religion prend la forme et il abandonne la substance. Il abandonne ce qui fait la vie de la chose. Et c'est ça la religion. Dieu, Jésus-Christ, était sur le mont de la transfiguration et il a reçu la visite de Élie et Moïse. Les disciples ont vu la gloire qui était là. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre va dire, allez, on va rendre cet événement figé. On va en faire un monument. On va faire 3 tentes. Et j'ai dit, non, reste avec tes tentes et je te donnerai des oncles. Bon, vous n'avez pas vu ce jeu-là. C'est juste un jeu de mots. Garde les tentes et je te donnerai des oncles. Non, c'est un jeu de mots. C'est pas la même tente. D'accord, c'est pas la même orthographe. Il y a certains blagues qui ne marchent pas bien ici. Ça marche. Ok. Et Pierre, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus dit non, on n'a pas besoin de figer cet événement. Et pendant que Pierre parlait de tente, ben Moïse est parti, Élie est reparti. C'est fini. Et Jésus dit non, on va changer de forme. On va aller dans la vallée. Et nous, parfois, nous gardons la forme. On a toujours fait comme ça. Mais si Dieu veut changer, et si Dieu veut modifier les choses, est-ce que dans ta manière, dans tes principes, est-ce que Dieu peut avoir accès à tes principes? Est-ce que le Saint-Esprit peut modifier les choses? Ou bien non, moi je suis un homme de principes, on ne touche pas à mes principes. Je mange toujours à telle heure. Mais et si Dieu veut que tu passes un peu plus de temps avec quelqu'un, tu modifies. Ah non, moi, je mange toujours à 12:30. Voilà 12:20, tu reçois un coup de fil, tu dois vraiment une urgence, rendre visite à quelqu'un. Non, je viendrai après le repas. Bon, moi, je dois aller au lit peut-être à 21:30. C'est un principe. Ou 22:00, c'est un principe. Je vais prier et 22:00 sonne. Et Dieu dit non. Passe encore un peu de temps dans la prière. Ah non, Seigneur, ça c'est pas Dieu qui me parle, c'est Satan. Moi, ma foi, c'est 22:00. Dieu dit non, passe encore un peu de temps. Pendant que je parle de ça, vous savez, chaque matin, quand c'est moi qui dois poster pour ceux qui suivent nos dévotions, je me réveille à 4h30. Je prends 30 minutes dans la prière où je prie pour les auditeurs, tous ceux qui vont écouter la dévotion du jour. Et jusqu'à 5h du matin, pile, on publie les dévotions. Et je suis devant mon téléphone parce que des gens appellent, des gens envoient, les gens me font des retours, des sujets de prière. Et je parle avec des gens jusqu'à à peu près 7 heures. Après 7 heures, je ne suis plus accroché à mon téléphone. Je passe à autre chose. Et c'est comme ça. Et le soir, j'ai l'habitude d'aller au lit vers 23 heures ou minuit, au plus tard minuit. Et une fois, j'étais allé au lit à 0 heure comme ça, le sommeil ne venait pas. Le sommeil ne venait pas. Je luttais. Et j'ai compris que Dieu m'appelle juste à prier un peu. Bon, je me suis levé. J'ai prié encore un peu. Je me suis couché. Non. Dieu dit non. Il y avait une résistance. Alors que j'étais fatigué. Et littéralement, j'entends cette voix. Une brebis égarée a besoin de toi. Presque 1h du matin, Seigneur. Bon, là, je savais que si je reste encore au lit, je vais louper quelque chose. Ça ne va pas le faire. Donc, je me lève, je vais rester dans mon bureau. J'étais là, j'ai dit, mais bon, je prie pour cette brebis égarée que je ne connais même pas. Et vers 2h, 2h30, je vois une sœur que j'ai connu il y a tout récemment, mais on se connaît déjà plus de 2 ans. Elle suit bien les dévotions et tout et tout. Et elle m'écrit un message, « Pasteur, priez pour moi » à 2h30. Et je prends mon téléphone, tout de suite je réponds. « Quel est votre sujet de prière ?» Et on discute un peu. Elle me dit « Je peux vous appeler ?» Et moi je l'appelle à 2h du matin. Elle pleurait, vraiment. Et son mari, c'est un pasteur que je ne connais pas. Elle pleurait. Elle me raconte des choses. Elle me dit « Au fait, le message que je t'avais laissé disant « Priez pour moi », c'est un message d'adieu. Elle était sur le point de se suicider. Et elle me dit, à la fin, elle me dit, j'espère que je ne vous dérange pas. Je dis, non, du tout, tu ne me déranges pas, parce que je dormais, mais voici ce que le Seigneur m'a dit, qu'une brebis égarée a besoin de moi. Donc je me suis réveillé, j'attendais la brebis égarée. Encore plus, elle pleurait. Et quand elle m'a raconté maintenant toute l'histoire, non mais j'étais effrondé. Et juste voir que le Seigneur veut sauver la vie de quelqu'un. Il est capable de briser moi mes principes. Il est capable de troubler mon sommeil. Je dis, mais moi, je suis juste un bouc émissaire alors. Et j'attendais cette brebis égarée sans le savoir. Et après, c'est parti. C'est parti. Je n'ai jamais vu cette personne. Cette année, quand je suis venu en Europe, c'est la première fois que je l'ai vue. Après qu'on se connaît déjà plus de 2 ans en ligne, on s'appelle, mais on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Et là, je dis, waouh, le Seigneur qui rentre dans nos principes, le Seigneur qui veut parler. Et il dit, sois sans crainte. Il est capable de tout bouleverser, quoi. Sois sans crainte et ne crains rien, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Je n'ai pas pu venir jusqu'à la fin de là, mais voilà, je suis moi-même ton bouclier. Ton bouclier. Et parlant de bouclier, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans d'autres traductions, lorsqu'il est dit « Je suis moi-même ton bouclier », dans d'autres traductions, il est dit « Je suis ton protecteur ». Dans d'autres traductions, il est dit « Je te protégerai ». Donc, en fait, c'est ça le rôle d'un bouclier. Un bouclier, c'est une arme défensive. Avec un bouclier, on n'attaque pas, mais on se défend. On le porte souvent au bras gauche. Et dans la main droite, on prend l'épée. On se protège contre les traits enflammés de l'ennemi. Et dans Éphésiens chapitre 6, la Bible va comparer notre foi à un bouclier. Dieu nous a donné sa foi comme un bouclier pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. En réalité, ce bouclier, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu notre protecteur. Il nous protège, il nous garde. Ça fait que lorsque l'ennemi vient, c'est Dieu qui nous protège. En fait, Dieu, c'est comme un autre bouclier humain. C'est un bouclier humain, en fait. Il nous protège contre l'adversaire, contre l'adversité. Et c'est beau de voir ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au fil des années, on sait que le bouclier, aujourd'hui, on ne combat plus avec un bouclier. On a changé les choses. Les boucliers sont remplacés par des armes nucléaires, par plein d'autres choses encore aujourd'hui. Et spirituellement, on a tendance à s'adapter à notre époque. Au lieu de prendre le bouclier de la foi, le christianisme a inventé d'autres armes. En Afrique, on parle de la fourchette du Saint-Esprit. On parle du piment du Saint-Esprit. On parle de tellement de formules. On parle des paroles incantatoires. On a remplacé le bouclier par les armes de notre époque. Et Dieu dit non. Le bouclier, aussi antique qu'il puisse être, c'est toujours d'actualité. On n'a pas besoin de changer notre foi. Oui, aujourd'hui, bon, c'est choquant quand on parle du péché. Ok, on ne va plus parler du péché, on va parler d'erreur. Ah, tout le monde fait d'erreur. Ça, c'est changer le bouclier. Je ne sais pas, pour la Suisse, mais on en parlait un peu en France la dernière fois. Là, on parlait de ce problème de société, l'homosexualité, un problème de société aujourd'hui. On dit non, 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 ce n'est pas un péché. Il ne faut pas choquer les gens. C'est juste un autre style de vie. Et vous savez quoi? On a changé le bouclier. On a pris une autre arme. Et l'Église aujourd'hui se permet même des mariages que vous connaissez, se permet des relations que vous connaissez. J'étais à la pastorat à Montpellier la dernière fois. On me présente une femme pasteur qui a épousé une autre femme. le couple pastoral, ça fait deux femmes. J'étais dans la pastorale, je regardais, je dis à Pasteur Johan, on est où là? Et une qui se lève pour dire non, il ne faut plus parler de Jésus, mais il faut parler de la foi. Chacun trouvera sa manière de vivre sa foi. Si la manière pour certains doit passer par Jésus, pour d'autres doit passer par Mahomet, pour d'autres doit passer par le social, ben c'est juste, on est là, réunis par la foi. Mais chacun va se trouver sa manière de vivre sa foi. On s'est regardé, on s'est dit, oh, on est où là? On a remplacé le bouclier. Ça, c'est des nucléaires. Et ce qui est encore devant, c'est que pour cette année 2022, le maire de Montpellier, qui organise, la mairie de Montpellier dit, cette année, on va organiser la fête de Noël, mais une Noël laïque. J'ai dit Noël laïque? Noël, oui, je comprends. La laïcité, oui, je comprends. Mais Noël laïque, ça n'existe pas. Un Noël, on ne parlera pas de Jésus. Alors, qui est né? On va parler de Père Noël, mais pas de Jésus. On a remplacé le bouclier. Et ça, c'est des nucléaires sur l'Église aujourd'hui. Vous voyez? J'aimerais juste nous encourager avec cette pensée ce matin. Que Dieu nous bénisse vraiment. Après ces choses, Dieu peut parler encore. Et ne crains pas, il est lui-même notre bouclier. Dieu s'occupe de ça. Amen.